Dans une étude publiée par l'Institut Jonatas, commandée par le Bnei Brit International, Joël Kotek, historien spécialiste de l'antisémitisme et président de Jonatas, revient sur la dynamique antisioniste, présente sur les campus des universités belges, j'y arriverai. On en parle avec lui, ou plus particulièrement, Blaise van der Linden en a parlé avec lui. On écoute Joël Kotek.
Joël Kotek, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une étude que vous avez publiée sur le site de Jonatas, une étude qui a été faite en partenariat avec le Bnei Brit International, nommée Les universités belges au miroir du 7 octobre, une analyse des dynamiques antisionistes. Alors, sans évidemment trahir tout le secret de cette étude, on remarque que toutes les universités du pays ont été touchées par des manifestations antisionistes depuis le 7 octobre 2023, et principalement les deux plus grosses, à savoir l'ULB et l'Université d'Anvers.
Oui, enfin, pas forcément les deux plus grosses. Je veux dire, toutes les universités sont importantes. Alors, c'est vrai que j'ai fait l'étude des 7 universités, je dirais, principales. Alors, je n'ai pas eu d'informations sur l'Université de Mons, donc je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais effectivement, j'ai réussi à trouver des informations sur les 7 plus importantes, c'est-à-dire les deux universités d'origine catholique, l'UCL et la KUL, la grande université de Gand, qui est quand même une université extrêmement importante, et puis les deux universités laïques, l'ULB et la VUB, et puis l'université d'Anvers. Voilà.
Gand a été, dans la chronologie des choses, Gand a été la première à se manifester avec des manifestations justement très violentes.
Oui, alors Gand, c'est une université assez à part, c'est une excellente université, très très bien cotée au niveau international, mais qui est un peu le cœur de l'activisme, je dirais, pro-palestinien, anti-israélien, et qui a vu effectivement démarrer les premières manifestations, les premières occupations, et c'est le 5 mai donc de 2024 que l'université finalement a été occupée et fouillée, on peut dire comme partout, de manière un peu violente, au départ bon enfant, et puis tout ça rapidement dégénéré, d'ailleurs aux grandes dames des autorités académiques dans toutes les universités.
Suite à ces occupations, l'université de Gand a déclaré couper ses partenariats avec 3 universités israéliennes. On peut dire que ces universités belges ont cédé à la pression populaire, à la pression de ces occupations?
Oui, tout à fait, elles ont cédé. Alors, ce n'est pas une pression populaire, c'est à la pression d'activistes. Encore une fois, est-ce que ces activistes représentent la communauté universitaire? J'en doute pleinement, mais comme on sait, ce sont les minorités actives qui dictent leurs lois. Et là, on a quelques dizaines, quelquefois quelques centaines de personnes qui, par des actions relativement violentes, en tout cas symboliquement extrêmement violentes, ont forcé la main en quelque sorte à des autorités académiques, peut-être qu'ils n'en demandaient pas tant, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une atmosphère d'antisionisme radical qui existe aussi, qui baigne aussi, je dirais, les élites intellectuelles belges.
Alors, l'université qui nous occupe le plus géographiquement, ici pour Radio Judaïka, c'est l'ULB, où on a vu de nombreuses affaires. On a vu l'occupation d'un bâtiment avec de nouveau des actions très violentes, dont l'agression du coprésident de l'UEJB. On a également vu l'annulation de la conférence d'Eli Barnavi. Comment vous l'avez vécu en tant que prof à l'ULB, justement?
Bon, l'université Libre de Bruxelles est une grande université, donc un peu, bon, je l'ai vécu un peu, de manière assez éloignée, puisque je ne vais pas si souvent que ça sur le campus. Alors, j'ai été visiter effectivement le bâtiment B qui a été occupé, et j'ai vu, encore une fois, cette violence symbolique qui l'a habité pendant quelques temps. Dans un premier temps, ce que j'ai vu, c'est, un point de vue peut-être sympathique aussi dans un premier temps de la part des autorités académiques qui ont dans un premier temps en quelque sorte soutenu ces activistes qui se sont fait appeler l'université populaire. Et puis j'ai senti un désarroi chez les autorités qui se sont trouvées totalement dépassées justement par l'extrême violence et l'incapacité des occupants, des activistes à entamer un véritable dialogue, parce qu'au début les autorités académiques de l'ULB ont tenté de dialoguer, comme on dit, et de donner raison. Et c'est ça ce que souligne l'article, c'est que par conviction ou par lâcheté, finalement, les autorités académiques ont accepté l'agenda que leur avaient posé les quelques activistes qui ont occupé un certain nombre de nos universités, et donc qui a amené à la rupture des rares relations qui existaient entre les universités israéliennes et les universités belges. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans le climat qui est le nôtre en Belgique, ben, il y a très peu de relations entre Israël et la Belgique au niveau universitaire.
Alors, Annie Michaud, la rectrice de l'ULB, a depuis légèrement rétropédalé comparé au début de ses occupations et de ses événements à l'ULB. Avez-vous l'impression que petit à petit, les universités changent de vision par rapport à leur collaboration avec les universités israéliennes et à leur combat contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme sur leur campus?
Mais je ne pense pas que nos universités combattent ni l'antisémitisme ni l'antisionisme. C'est pas à l'ordre du jour. Tout ce que je peux dire, c'est que de la même manière, n'était pas à l'ordre du jour, comme je l'ai dit, les relations avec les universités israéliennes. Il y en avait extrêmement peu. Il y en avait surtout à l'université d'Anvers, pour des raisons peut-être liées à la communauté juive qui y vit. Il y avait quelques relations. Naturellement, les universités belges sont impliquées dans des projets européens, les projets Horizon, et donc indirectement en lien avec Israël. Mais encore une fois, je veux dire que depuis l'an 2000, on peut dire que la Belgique s'est détournée de partenariats avec l'État d'Israël. Et donc, comme je l'ai dit dans un premier temps, elles n'ont pas été hostiles à ces occupations. Et c'est en quelque sorte l'extrémisme même des activistes qui les a poussés finalement a finalement organisé leur expulsion. Il faut savoir que tous les bâtiments qui ont été occupés, finalement, se sont retrouvés dans des situations où les autorités académiques se sont vues forcées de les expulser. Et la plupart d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que on peut parler en quelque sorte de coordination. Et ça aussi, je pense qu'il faut bien se rendre compte que ces occupations dans les 7 principales universités belges ne sont pas le fruit du hasard. Il y a certainement une coordination. Et on peut y voir la main d'un mouvement qui s'appelle Samidoun derrière tout cela. Donc c'est vraiment un mouvement très très bien structuré autour du mouvement aussi BDS. Et paradoxalement, de la même manière, les autorités académiques qui, comme je l'ai dit, dans un premier temps, qui voyaient plutôt d'un œil favorable ces diverses occupations et manifestations, on pourrait dire d'hostilité à l'État d'Israël, ont été forcés de les expulser. Et la plupart des expulsions se sont produites autour du 25 juin. Hein, aussi bien, si je me souviens bien, à Bruxelles, qu'à Liège et à l'UCL. Donc voilà tout ce qu'on peut dire. Donc aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus du tout de lien entre les universités belges et les universités israéliennes. Et c'est dommage, surtout pour la Belgique. Parce que je pense que dans bien des domaines, la recherche israélienne est bien plus avancée.
Oui. Dans votre étude également, hein, vous rappelez que l'ex-premier ministre belge Alexander De Croo n'a pas hésité, lui a déclaré que s'il avait été étudiant, il aurait probablement rejoint ces manifestations. En fait, là, on dépasse complètement le cadre des campus et des universités. C'est au niveau fédéral, c'est la Belgique qui va mal.
Oui, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, tout cela s'inscrit dans un terreau en quelque sorte, je dirais, d'obsession d'Israël. Je veux dire, il faut bien se rendre compte que la Belgique est sans doute, avec l'Espagne et l'Irlande, à la pointe de l'activisme anti-israélien. Je veux dire, l'image d'Israël est extrêmement mauvaise au sein de la classe politique pour diverses raisons. Hein, les raisons en Flandre sont différentes de celles de la Wallonie et de Bruxelles. Et c'est vrai qu'il y a, oui, il y a un terreau favorable qui explique qu'un premier ministre, pourtant libéral, s'est cru autorisé à dire que s'il avait été lui-même étudiant, il aurait sans doute participé à des occupations qui sont à l'opposé de ce qu'est la liberté académique, etc., puisque ces activistes qui se présentent démocrates ont été d'abord jusqu'à molester des étudiants juifs, et notamment, vous l'avez bien rappelé, le coprésident de l'Union des étudiants juifs, et un authentique activiste pro-israélien et pro-palestinien qui est Eli Barnavi. Je dis, ils ont interdit de parole Eli Barnavi qui, depuis des dizaines d'années, plaide pour la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Et donc, voilà. Et ça, c'est, oui, ce climat, cette passion anti-israélienne qui existe en Belgique et qui est assez étonnante, mais qui peut s'expliquer, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Mais disons que ce qu'on peut dire, c'est que tout comme l'antisémitisme a toujours été fédérateur, à partir du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, ben aujourd'hui on peut dire que l'antisémitisme radical est fédérateur, hein, c'est le plus petit dénominateur commun de à la fois la classe politique belge et sans doute des mouvements étudiants qui communient dans la haine d'Israël, parce que ça mange pas de pain, parce que il est plus facile de condamner l'État d'Israël pour diverses raisons que des pays plus aussi puissants que la Chine, le Qatar, la Turquie ou je ne sais quel autre pays.
Oui. Joël Kotek, je rappelle que vous êtes donc historien, spécialiste de l'antisémitisme, mais vous êtes également président et cofondateur de l'Institut Jonatas. On retrouve votre étude sur le site hein, jonatas.org, une étude avec, pour le Bnei B'rith International. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Je vous remercie aussi.